Frédéric Nietzsche, Généalogie de la morale, troisième dissertation. Quel est le sens de tout idéal ascétique? Insouciant, railleur, violent, ainsi nous veut la sagesse. Elle est femme, elle n'aimera jamais qu'un guerrier. Ainsi parlait Zarathoustra. 1. Quel est le sens de tout idéal ascétique? Chez les artistes, il ne signifie rien, quelquefois aussi des choses multiples. Chez les philosophes et les savants, quelque chose comme un flair et un instinct pour les conditions favorables à la haute spiritualité. Chez les femmes, tout au plus un charme de séduction en plus, un peu de morbidezza sur de belles chairs, ce qu'un joli animal un peu gras a d'angélique. Chez les disgraciés et les déséquilibrés au point de vue physiologique, chez la majorité des mortels, une tentative de se trouver trop bon pour ce monde, une forme sacrée de la débauche, leur arme capitale dans la lutte contre la douleur lente et l'ennui. Chez les prêtres, la véritable foi sacerdotale, leur meilleur instrument de puissance et aussi leur suprême autorisation au pouvoir. Chez les saints, enfin, un prétexte au sommeil hivernal, leur novissima gloriae cupido, leur repos dans le néant, Dieu, leur manifestation de la démence. En somme, de cette diversité de sens dans l'idéal ascétique chez l'homme, ressort le caractère essentiel de la volonté humaine, son aurore wakui. Il lui faut un but. Et il préfère encore avoir la volonté du néant que de ne point vouloir du tout. Me comprend-on? M'a-t-on compris? Décidément non, monsieur. Commençons donc par le commencement. 2. Quel est le sens de tout idéal ascétique? Ou, pour prendre un cas particulier au sujet duquel on m'a souvent consulté, quelle interprétation faut-il donner, par exemple, au fait qu'un artiste comme Richard Wagner ait, dans ses vieux jours, rendu hommage à la chasteté? Il est vrai que, dans un certain sens, il ne fit jamais autre chose. Mais ce n'est que tout à fait à la fin que cet hommage prit un sens ascétique. Que signifie ce changement de sens, cette radicale conversion de sens? Car c'en fut une, et par elle, Wagner passa d'un bond à son antithèse. Qu'est-ce que cela signifie quand un artiste passe à son antithèse? En admettant que nous voulions nous arrêter un moment à cette question. Il nous vient aussitôt le souvenir de la meilleure époque que connut peut-être la vie de Wagner, de l'époque la plus forte, la plus gaie et la plus courageuse. C'était lorsque le préoccupait l'idée profonde des noces de Luther. Qui sait quel hasard nous a valu, au lieu de cette musique nuptiale, celle des maîtres chanteurs. Et dans celle-ci, que d'écho peut-être de celle-là? Du moins, n'y a-t-il point de doute que, dans ces noces de Luther, il ne se fût agi également d'un éloge de la chasteté, et aussi, il est vrai, d'un éloge de la sensualité. Cela me semble tout à fait juste, et ce l'eût été aussi au point de vue wagnérien. Car, entre la chasteté et la sensualité, il n'y a pas nécessairement opposition. Tout bon mariage, toute sérieuse passion du cœur, est au-dessus de cette opposition. Wagner, à mon sens, aurait bien fait de remettre à l'esprit de ces Allemands cette agréable vérité, à l'aide d'une comédie gracieuse et hardie, qui aurait représenté l'histoire de Luther, car parmi les Allemands,
il y a toujours eu beaucoup de calomniateurs de la sensualité. Et le mérite de Luther ne fut peut-être en rien plus grand que lorsqu'il eut le courage de sa sensualité. On disait alors, non sans douceur, la liberté évangélique. Pourtant, même dans le cas où existe réellement cette opposition entre la chasteté et la sensualité, il s'en faut de beaucoup, et cela est heureux, pour qu'elle soit une opposition tragique. Il semble en être ainsi de tous les mortels de bonne santé et d'esprit pondéré, qui sont loin de compter sans plus d'examen, cet équilibre instable entre l'ange et la bête, au nombre des principes contradictoires de l'existence. Les plus fins et les plus clairs, comme Affis, comme Goethe, y ont même vu un attrait de plus. Ce sont précisément de telles oppositions qui font aimer la vie. D'autre part, il va sans dire que, lorsque les infortunés animaux de Circé, et il y a de ces animaux, sont amenés à adorer la chasteté, ils n'en voient et n'en adorent que l'opposé. Oh, avec quel tragique grognement et quelle ardeur on peut se le figurer! Ils adorent ce contraste douloureux et absolument superflu que Richard Wagner, à la fin de sa vie, a voulu incontestablement mettre en musique et porter sur la scène. Dans quel but, demandera-t-on, comme de juste? Car que lui importait et que nous importent les animaux du Circé? 3. Il ne faudrait pas, cependant, vouloir éviter cette autre question. Que lui importait vraiment cette virile, hélas, si peu virile, simplicité des chants? Ce pauvre diable, cet enfant de la nature qui s'appelait Parsifal, qu'il finit par faire catholique par des moyens si insidieux. Comment, ce Parsifal, Wagner le prenait-il vraiment au sérieux? À vrai dire, on pourrait être tenté de supposer, et même de désirer le contraire, que le Parsifal de Wagner eût été conçu gaiement, en quelque sorte comme épilogue, et comme drame satirique, par lequel Wagner le tragique aurait voulu, d'une façon convenable et digne de lui, prendre congé de nous, de lui-même, et avant tout de la tragédie. Et cela, par un excès de haute et de malicieuse parodie du tragique lui-même, de tout ce terrible sérieux terrestre et des misères terrestres d'autrefois, parodie d'une forme enfin vaincue, la forme la plus grossière de ce qu'il y a d'antinaturel dans l'idéal ascétique. C'eût été, je le répète, un digne dénouement pour un grand tragique, qui, comme tout artiste, n'arrive au dernier sommet de sa grandeur que lorsqu'il sait considérer à ses pieds sa propre personnalité et son propre art, lorsqu'il sait rire de lui-même. Le Parsifal de Wagner est-il le sourire caché du maître, ce sourire de supériorité qui se moque de lui-même, le triomphe de sa dernière, de sa suprême liberté d'artiste, de son au-delà d'artiste? On pourrait, je le répète encore, le souhaiter, car que serait Parsifal pris au sérieux? Est-il vraiment nécessaire de voir en lui, pour employer une expression dont on s'est servi en ma présence, le produit d'une haine féroce contre la science, l'esprit et la sensualité? Un anathème contre les sens et l'esprit concentrés dans un même souffle de haine. Une apostasie et une volte-face vers l'idéal d'un christianisme maladif et obscurantiste. Et enfin, une négation de soi, un effacement de soi de la part d'un artiste qui, jusqu'alors, de toute la puissance de sa volonté, avait travaillé à la tâche contraire, savoir à la spiritualisation et à la sensualisation suprême de son art. Et non pas seulement de son art, mais aussi de sa vie. qu'on se rappelle avec quel enthousiasme Wagner a marché jadis sur les traces du philosophe Feuerbach. Le mot de Feuerbach, la saine sensualité, retentit pendant les années 30 et 40 de ce siècle, pour Wagner comme pour beaucoup d'Allemands. Il s'appelait la jeune Allemagne, comme le mot rédempteur par excellence. A-t-il fini par changer d'avis à cet égard? Il semble que, du moins, il eut à la fin la volonté de changer sa doctrine, et non seulement du haut de la scène avec les trompettes de Parsifal. Dans les élucubrations troubles, aussi peu libres que peu conséquentes de ces dernières années, il y a 100 endroits où se trahit un désir secret, une volonté découragée, incertaine, inavouée, de prêcher un véritable retour en arrière, de prêcher la conversion, la négation, le christianisme et le Moyen-Âge, et de dire à ses disciples « Tout cela n'est rien, cherchez le salut autre part. » Il lui arrive même en un endroit d'invoquer le sang du Rédempteur. 4. Il faut que je dise ici mon sentiment pour ce qui en est de ce cas, s'il est pénible, il est typique aussi. On fera bien, assurément, de séparer à tel point l'artiste de son œuvre qu'il ne sera pas possible de le prendre au sérieux autant que son œuvre. Il n'est en définitive que la condition première de son œuvre, le sein maternel, l'humus, dans certaines circonstances l'engrais, du fumier sur lequel, hors duquel, elle pousse. C'est donc, dans la plupart des cas, quelque chose qu'on doit oublier si l'on veut prendre plaisir à l'œuvre elle-même. L'étude de l'origine d'une œuvre concerne le physiologiste et le vivisecteur de l'esprit. Jamais, au grand jamais, elle ne concerne les hommes esthésiques, les artistes. Au poète et au créateur de Parsifal ne fut pas plus épargné un approfondissement foncier et terrible. Une identification avec les contrastes psychiques du Moyen-Âge, un isolement hostile, loin de tout ce qui ressemble à de la hauteur, à de la sévérité et de la discipline de l'esprit. Une espèce de perversité intellectuelle, qu'on me passe le mot. Tout aussi peu que ne sont épargnés à une femme enceinte les dégoûts et les bizarreries de la grossesse. Ce qu'il faut précisément oublier pour se réjouir de l'enfant. Il faut se garder de la confusion où l'artiste ne verse que trop facilement, par contiguïté psychologique, pour parler comme les Anglais, comme s'il était lui-même ce qu'il représente, imagine et exprime. En réalité, s'il était ainsi conformé, il ne saurait se représenter, s'imaginer et s'exprimer. Un Homère n'aurait pas créé un Achille, un Goethe n'aurait pas créé un Faust, si Homère avait été Achille et Goethe Faust. Un artiste parfait et complet est à tout jamais séparé de la réalité. On comprend d'autre part que, parfois, il se sente là jusqu'au désespoir de l'éternelle irréalité, de l'éternelle fausseté de son existence la plus intime, et qu'alors il fasse parfois la tentative de passer dans un monde qui lui est interdit, le monde réel, de vouloir être réellement. Avec quelle chance du succès? On le devine aisément. Telle est la velléité typique de l'artiste. Cette velléité qui séduisit aussi Wagner vieillissant et qu'il lui fallut expier si durement. Il y perdit ses amitiés les plus précieuses. Et enfin, abstraction faite de cette velléité, qui ne souhaiterait d'une façon générale, dans l'intérêt même de Wagner, qu'il eût pris congé de nous autrement. Qu'il eût pris congé de son art, non avec un Parsifal, mais d'une façon plus victorieuse, plus assurée, plus wagnérienne, d'une façon moins décevante, moins ambiguë par rapport à l'ensemble de ses tendances, moins schopenhauerienne, moins nihiliste.
Cinq. Cinq. Quel est donc le sens de tout idéal ascétique? Dans le cas de l'artiste, nous commençons à le comprendre. Il n'y en a aucun. Ou bien, il est si multiple qu'il vaut autant dire qu'il n'y en a pas. Éliminons tout d'abord les artistes. Leur indépendance dans le monde et à l'égard du monde n'est pas assez grande pour que leurs appréciations et les changements dans ces appréciations méritent par eux-mêmes de l'intérêt. Ils furent de tout temps les humbles valets d'une morale, d'une philosophie ou d'une religion. Sans compter que trop souvent, hélas, ils ont été les courtisans dociles de leurs admirateurs et de leurs fidèles, les flatteurs éhontés des puissances d'anciennes et de fraîches dates. Tout au moins, leur faut-il toujours un rempart, une réserve, une autorité sur quoi ils puissent se fonder. Les artistes ne vont jamais seuls. L'allure de l'indépendance est contraire à leurs instincts essentiels. C'est ainsi que Wagner, par exemple, prit le philosophe Schopenhauer lorsque le temps fut venu de choisir un chef de file, un rempart. Qui pourrait imaginer seulement qu'il eut le courage de choisir un idéal ascétique sans être couvert par la philosophie de Schopenhauer, sans l'autorité de Schopenhauer, arrivé à son apogée dans les années 70. Sans compter que, dans la Nouvelle-Allemagne, un artiste qui n'aurait pas été plein de sentiments de piété, à l'égard de l'Empire bien entendu, eût été impossible. Et nous voici arrivés à la plus grave question. Quel sens faut-il attacher au fait qu'un philosophe véritable rende hommage à l'idéal ascétique, un esprit qui repose sur sa propre base comme Schopenhauer, un homme et un chevalier au regard d'airain, qui a le courage de sa personnalité, qui sait marcher seul, qui n'a besoin ni de chef de file, ni d'ordre venu de plus haut. Examinons immédiatement ici la position de Schopenhauer vis-à-vis de l'art, position singulière et même fascinante pour certains hommes, car c'est visiblement elle qui, tout d'abord, fit passer Wagner du côté de Schopenhauer sur le conseil d'un poète, comme on sait, du poète Herweck. Et cela avec une telle conviction qu'il y eut opposition violente et complète entre sa foi esthétique des premiers temps et celle qu'il adopta plus tard. Celle-là trouve son expression dans opéra et drame, par exemple, celle-ci dans les ouvrages publiés depuis 1870. Il est à remarquer que, chose étrange, Wagner changea dès lors sans scrupule son opinion sur la valeur et la situation de la musique même. Que lui importait qu'il eût fait d'elle, jusqu'alors, un moyen, un médium, une femme, qui, pour fructifier, avait absolument besoin d'un but, d'un homme, c'est-à-dire du drame. Il comprit, tout à coup, qu'avec la théorie et l'innovation de Schopenhauer, il y avait davantage à faire in maiore musicae gloriam, je veux parler de la souveraineté de la musique telle que l'entendait Schopenhauer, la musique placée à part, en face de tous les autres arts, arts indépendants par elle-même, non pas, comme les autres arts, simples reflets du monde des phénomènes, mais langage de la volonté même,
parlant directement du fond de l'abîme, comme sa révélation la plus personnelle, la plus fondamentale, la plus immédiate. Avec cette augmentation extraordinaire dans l'évaluation de la musique, telle qu'elle semblait ressortir de la philosophie de Schopenhauer, s'élevait du même coup, de façon colossale, l'estime où l'on tenait le musicien. Il devenait maintenant un oracle, un prêtre, plus qu'un prêtre, une sorte de porte-parole de l'essence des choses, un téléphone de l'au-delà. Dès lors, il ne parla plus seulement en musique, ce ventriloque de Dieu, il parla en métaphysique. Quoi d'étonnant s'il finit par parler un jour au moyen de l'idéal ascétique. 6. Schopenhauer a mis à profit la conception kantienne du problème esthétique, quoiqu'il ne l'ait certainement pas regardé avec des yeux kantiens. Kant pensa faire honneur à l'art lorsque, parmi les prédicats du beau, il avantagea et mit en évidence ceux qui font l'honneur de la connaissance, l'impersonnalité et l'universalité. Ce n'est pas le lieu d'examiner ici si ce ne fut pas là une erreur capitale. Je veux seulement souligner ici que Kant, comme tous les philosophes, au lieu de viser le problème esthétique en se basant sur l'expérience de l'artiste, du créateur, n'a médité sur l'art et le beau qu'en spectateur et insensiblement a introduit le spectateur dans le concept beau. Si, du moins, ce spectateur avait été suffisamment connu des philosophes du beau, s'il avait été chez eux un grand fait personnel, une expérience, le résultat d'une foule d'épreuves originales et solides, de désirs, de surprises, de ravissements sur le domaine du beau. Mais ce fut toujours, je le crains bien, tout le contraire. En sorte que, dès le principe, il nous donne des définitions, où il y a, comme dans cette célèbre définition du beau que donne Kant, un manque de subtile expérience personnelle, qui ressemble beaucoup au gros vers de l'erreur fondamentale. Le beau, dit Kant, c'est ce qui plaît sans que l'intérêt s'en mêle. Sans intérêt. À cette définition, comparez cet autre qui vient d'un vrai spectateur et d'un artiste, Stendhal, qui appelle une fois la beauté une promesse de bonheur. En tous les cas, nous trouvons récusé et éliminé ici ce que Kant fait ressortir particulièrement dans l'état esthétique, le désintéressement. Qui est-ce qui a raison, Kant ou Stendhal? Il est vrai que, si nos esthéticiens jettent sans cesse dans la balance, en faveur de Kant, l'affirmation que sous le charme de la beauté, on peut regarder d'une façon désintéressée même une statue féminine sans voile, il nous sera bien permis de rire un peu à leurs dépens. Les expériences des artistes au sujet de ce point délicat sont tout au moins plus intéressantes. Et Pygmalion n'était certes pas nécessairement un homme inesthétique. Ayons d'autant meilleure opinion de l'innocence de nos esthéticiens, innocence qui se reflète dans de pareils arguments. Rappelons, par exemple, que ce que Kant enseigne, avec la naïveté d'un pasteur de campagne, sur les particularités du sens tactile, est tout à son honneur. Ici, nous revenons à Schopenhauer, qui fut, dans une toute autre mesure que Kant, en rapport avec les arts, et pourtant, il n'a pu se débarrasser de l'influence de la définition kantienne. Comment expliquer cela? La chose est assez étrange. Le mot « sans intérêt », il l'interpréta de la façon la plus personnelle, guidé par son expérience, qui, chez lui, a dû être des plus régulières. il y a peu de choses sur lesquelles Schopenhauer parle avec autant d'assurance que sur les faits de la contemplation esthétique. Il prétend qu'elle réagit précisément contre l'intérêt sexuel, à peu près comme feraient la lupuline et le camphre. Il n'a jamais cessé de glorifier cette façon de se délivrer de la volonté, le grand avantage et l'utilité de la condition esthétique. On pourrait même être tenté de se demander si la conception fondamentale de volonté et représentation, si l'idée qu'on ne peut se délivrer de la volonté qu'au moyen de la représentation, n'est pas sortie simplement d'une généralisation de cette expérience sexuelle. Pour toutes les questions qui se rapportent à la philosophie de Schopenhauer, ceci dit en passant, il ne faut pas oublier quelle est la conception d'un jeune homme de 26 ans, de sorte qu'elle est le propre non seulement de Schopenhauer, mais aussi de cette période juvénile de l'existence. Écoutons, par exemple, un des passages les plus expressifs parmi quantité d'autres, qu'il a écrit en l'honneur de la condition esthétique. Dans « Le monde comme volonté et comme représentation » 1.231. Écoutons l'accent de douleur, de bonheur, de reconnaissance qu'il met à prononcer de telles paroles. C'est l'ataraxie qu'Épicure proclamait le souverain bien et dont il fait le partage des dieux. Pendant le moment que dure cette condition, nous sommes délivrés de l'odieuse contrainte du vouloir. Nous célébrons le sabbat du bagne de la volonté. La roue d'iction s'arrête. Quelle véhémence dans ces paroles! Quelles images de souffrance et d'immense dégoût! Quelle opposition des temps d'une intensité presque maladive entre le seul moment et le reste! La roue d'iction, le bagne de la volonté, l'odieuse contrainte du vouloir! Mais, à supposer que Schopenhauer eut 100 fois raison pour lui-même, quel progrès aurions-nous fait pour comprendre l'essence du beau? Schopenhauer a décrit un effet du beau, l'effet calmant sur la volonté. Encore cet effet est-il bien normal? Stendhal, nature non moins sensuelle, mais plus pondérée que Schopenhauer, fait ressortir, nous l'avons vu, un autre effet du beau. La beauté est une promesse de bonheur. Pour lui, c'est précisément l'excitation de la volonté, de l'intérêt par la beauté, qui apparaît comme le point important. Enfin, ne pourrait-on pas objecter à Schopenhauer que c'est bien à tort qu'il se réclame ici de Kant, qu'il n'a pas du tout compris d'une manière kantienne la définition kantienne du beau? Qu'à lui aussi le beau plaît à cause d'un intérêt, et de l'intérêt le plus grand et le plus personnel, celui du supplicié délivré de sa torture. Et, pour en revenir à notre première question, quel sens faut-il attacher au fait qu'un philosophe rende hommage à l'idéal ascétique? Nous voici déjà arrivés à une première indication. Il veut être délivré d'une torture. VII. Gardons-nous au mot torturé de prendre aussitôt un air lugubre. Précisément dans ce cas, il y a beaucoup à y opposer, beaucoup à en rabattre. Il reste même de quoi rire. N'oublions surtout pas que Schopenhauer, qui a traité la sexualité en ennemi personnel, la sexualité est aussi son instrument, la femme, cet instrumentum diaboli, avait besoin d'ennemis pour rester de bonne humeur. N'oublions pas qu'il avait une prédilection pour les paroles de colère, pour les paroles hargneuses, haineuses et bilieuses, qu'il se fâchait pour se fâcher, par passion, qu'il serait tombé malade, devenu pessimiste, car il ne l'était pas, quoique ce fût là son plus chaud désir. Sans ses ennemis, sans Hegel, sans la femme, sans la sensualité, sans la volonté de vivre, de rester en ce monde. Il y a un pari gros que, sans tout cela, Schopenhauer n'y serait pas resté, il se serait enfui. Mais ses ennemis le tenaient, ses ennemis lui offraient toujours de nouvelles séductions dans l'existence. Sa colère était, tout comme pour les cyniques de l'Antiquité, un baume, un délassement, sa rançon et son remède contre le dégoût, son bonheur. Ceci suffira pour expliquer le côté le plus personnel du cas de Schopenhauer. Mais il y a en lui autre chose qui est typique, et ceci nous ramène à notre problème. Incontestablement, depuis qu'il y a des philosophes sur Terre, et partout où il y a des philosophes, de l'Inde à l'Angleterre, pour prendre les pôles opposés dans les capacités philosophiques, il y a une véritable animosité, une rancune philosophique à l'égard de la sensualité. Schopenhauer n'en est que l'explosion la plus éloquente, et, pour qui sait l'apprécier, la plus entraînante, la plus enchanteresse. Il existe de même une véritable prévention, une tendresse toute particulière des philosophes à l'égard de l'idéal ascétique. À ce sujet, point d'illusion possible. L'une et l'autre particularité, je le répète, appartiennent au type. Si toutes deux manquent chez un philosophe, celui-là, soyez-en certain, ne sera jamais qu'un prétendu philosophe. Qu'est-ce que cela signifie? Car il faut d'abord interpréter cet état de choses. En soi, c'est un fait qui demeure stupide pour l'éternité, comme c'est le cas pour toute chose en soi. Toute bête, la bête philosophique comme les autres, tend instinctivement vers un optimum de conditions favorables au milieu desquelles elle peut déployer sa force et atteindre la plénitude du sentiment de sa puissance. Toute bête a de même une horreur instinctive et une sorte de flair subtil, supérieur à toute raison, pour toute espèce de trouble et d'obstacle qui se présente ou pourrait se présenter sur la route vers l'optimum. Ce n'est pas de sa route vers le bonheur que je parle, mais de sa route vers la puissance, vers l'action, vers l'activité la plus large, ce qui, en somme, dans la plupart des cas, est sa route vers le malheur. Par suite, le philosophe a horreur du mariage et de tout ce qui pourrait l'y conduire, du mariage en tant qu'obstacle fatal sur sa route vers l'optimum. Parmi les grands philosophes, lequel était marié? Héraclite, Platon, Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, Schopenhauer, il ne l'était point. Bien plus, on ne pourrait même se les imaginer mariés. Un philosophe marié a sa place dans la comédie, telle est ma thèse. Et Socrate, seule exception, le malicieux Socrate, sait, semble-t-il, marié par ironie précisément pour démontrer la vérité de cette thèse. Tout philosophe dirait, comme jadis Bouddha, quand on lui annonça la naissance d'un fils, « Raoula m'est né, une entrave est forgée pour moi. » Raoula signifie ici un petit démon. Pour tout esprit libre devrait venir une heure de réflexion. À supposer qu'auparavant il y ait eu une heure irréfléchie, mais une heure telle que le même Bouddha en vécut une. Étroitement bornée, se dit-il, est la vie à la maison, ses jours d'impureté. La liberté est dans l'abandon de la maison. et, pénétré de cette idée, il abandonna la maison. Dans l'idéal ascétique, tant de portes sont ouvertes vers l'indépendance qu'un philosophe ne peut entendre, sans une vive allégresse et sans approbation intérieure, l'histoire de ces hommes résolus qui, un jour, opposèrent leur négation à toute servitude et s'en allèrent dans quelque désert, en admettant même que ce ne furent là que des âmes très fortes et non point des esprits forts. Quel sens faut-il donc attacher à l'idéal ascétique chez un philosophe? Voici ma réponse. On l'aura d'ailleurs deviné depuis longtemps. À son aspect, le philosophe sourit comme à un optimum des conditions nécessaires à la spiritualisation la plus haute et la plus hardie. Par là, il ne nie pas l'existence, il affirme au contraire son existence à lui, et seulement son existence, au point qu'il n'est peut-être pas éloigné de ce vœu criminel. Pereat mundus, fiat philosophia, fiat philosophum fiam. 8. On le voit, ce ne sont point des témoins et des juges incorruptibles dans l'examen de la valeur de l'idéal ascétique, ces philosophes. Ils pensent à eux-mêmes. Que leur apporte le saint? Ils pensent en outre à ce qui leur est le plus indispensable, être délivrés de la contrainte, du dérangement, du bruit, des affaires, des devoirs, des soucis, avoir l'esprit lucide, la danse, le ressort, le vol dans les idées, un air pur, léger, clair, libre, sec, comme celui qu'on respire sur les hauteurs, où toute animalité devient plus spirituelle et prend des ailes. Le silence dans toutes les choses souterraines, tous les chiens bien attachés à la chaîne, ni aboiement hostile, ni rancune aux pattes lourdes, aucun ver rongeur de l'orgueil blessé. Des entrailles modestes et soumises, obéissantes comme les rouages d'un moulin. Mais qu'il n'en soit pas question. Le cœur étranger, lointain, futur, posthume, en résumé par l'idéal ascétique, ils entendent l'ascétisme joyeux d'un animal qui s'est divinisé, s'est envolé de son nid et va voltigeant au-dessus de la vie, plutôt que de se reposer sur elle. On connaît les trois mots de parade de l'idéal ascétique. Pauvreté, humilité, chasteté. Et maintenant, qu'on examine une fois de près la vie de tous les grands esprits féconds et inventifs. On retrouvera toujours à un certain degré ces trois mots. Absolument pas, bien entendu, comme s'il s'agissait de leur vertu. Une telle espèce d'homme se soucie bien de vertu, mais comme conditions propres et naturelles à l'épanouissement de leur existence, à leur plus grande fécondité. Avec cela, il est fort possible que leur spiritualité dominante ait dû d'abord mettre un frein à l'orgueil effréné et irritable, à la sensualité pétulante qu'ils possédaient de nature, ou bien encore qu'ils aient eu une peine infinie à maintenir leur volonté du désert contre un penchant pour ce qui est délicat et rare, ainsi que contre une libéralité magnifique qui prodigue les dons du cœur et de la main. Mais leur spiritualité a agi précisément parce qu'elle était l'instinct dominant qui impose sa loi aux autres instincts. Et elle agit encore ainsi, autrement elle ne dominerait pas. Il n'est donc pas question ici de vertu. Du reste, le désert dont je parlais tout à l'heure, le désert où se retirent et s'isolent les esprits robustes de nature indépendante, combien son aspect est différent de l'idée que s'en font les gens cultivés. Parfois, ils sont eux-mêmes ce désert, ces civilisés. Il est certain que les comédiens de l'esprit ne sauraient s'en accommoder. Pour eux, il est loin d'être assez romantique et assez syrien, assez désert d'opéra comique. Il n'y manque pas non plus de chameaux, mais c'est à cela que se borne la ressemblance. Une obscurité volontaire, peut-être, une fuite devant soi-même, une aversion profonde pour le bruit, l'admiration, le journal, l'influence, un petit emploi, quelque chose de quotidien qui cache plutôt qu'il ne met en évidence. Parfois, la société de bêtes domestiques, d'oiseaux inoffensifs et joyeux dont l'aspect réconforte, des montagnes pour tenir compagnie, mais non des montagnes mortes, des montagnes avec des yeux, c'est-à-dire avec des lacs. Parfois même, une simple chambre dans un hôtel quelconque, plein de monde, où l'on est certain d'être perdu dans la foule, et de pouvoir impunément causer avec tout le monde. Voilà le désert. Il est suffisamment solitaire, croyez-moi. Le désert, où se retirait Héraclite, les portiques et les péristyles de l'immense temple de Diane, fut plus digne de lui, j'en conviens. Pourquoi manquons-nous de pareils temples? Peut-être, cependant, ne nous manque-t-il pas. Je pense à l'instant à ma plus belle chambre de travail de la Piazza di San Marco, à condition que ce soit le printemps et le matin entre 10 heures et midi. Mais ce qu'Héraclite voulait éviter, c'est ce que nous, nous aussi, nous voulons éviter encore, le bruit et le bavardage démocratique des Éphésiens, leur politique, les nouvelles qu'ils apportent de l'Empire, je veux dire la Perse, on m'entend, leur pacotille d'aujourd'hui. Car nous autres philosophes, nous avons surtout besoin d'un repos, le repos des choses d'aujourd'hui. Nous vénérons ce qui est tranquille, froid, noble, lointain, passé, toute chose enfin dont l'aspect ne force pas l'âme à se défendre et à se garer, toute chose à qui l'on peut parler sans élever la voix. Qu'on écoute seulement le timbre qui prend la voix d'un esprit quand il parle. Chaque esprit a son timbre et l'affectionne. Voyez celui-ci par exemple. Ce doit être un agitateur, c'est-à-dire une tête creuse, une casserole vide. Tout ce qui y entre en ressort assourdi, enflé, alourdi par l'écho du grand vide. Cet autre parle presque toujours d'une voix enrouée. S'est-il peut-être enrhumé du cerveau à force de penser? Ce serait possible qu'on interroge les physiologistes. Mais celui qui pense au moyen des mots pense en orateur et non en penseur. Il trahit qu'au fond, il n'imagine pas des objets. Il ne pense pas objectivement, mais seulement les rapports qu'il y a avec les objets, ainsi lui-même. Il n'imagine que lui-même et ses auditeurs. Voyez cet autre encore. Son langage est insinuant, il s'approche de nous de trop près. Son haleine nous effleure involontairement, nous fermons la bouche, quoique ce soit par l'intermédiaire d'un livre qu'il nous parle. Le timbre de son style nous donne l'explication que nous cherchions. Il n'a pas le temps, il n'a guère foi en lui-même, et s'il ne parle pas aujourd'hui, il ne parlera jamais. Mais un esprit qui est certain de lui-même parle doucement. Il cherche l'obscurité. Il se laisse attendre. On reconnaît le philosophe à ce qu'il évite trois choses brillantes et bruyantes : la gloire, les princes et les femmes. ce qui ne veut pas dire qu'elle ne vienne pas à lui. Il fuit la lumière trop vive. Aussi fuit-il son temps et le jour qu'il répand. En cela, il est comme une ombre. Plus le soleil s'abaisse, plus l'ombre grandit. Quant à son humilité, il s'accommode aussi, comme il s'accommode de l'obscurité, d'une certaine dépendance et d'un certain effacement. Bien plus, il craint le trouble de la foudre. Il s'effraie de l'insécurité d'un arbre trop isolé et trop exposé, sur quoi tout mauvais temps décharge son humeur, toute mauvaise humeur sa tempête. Son instinct maternel, le secret amour de ce qui grandit en lui, lui conseille des conditions où l'on se décharge du devoir de prendre soin de soi. De même que l'instinct de la mère chez la femme a toujours maintenu la situation dépendante de la femme. Ils demandent enfin peu de choses, ces philosophes. Leur devise est « celui qui possède est possédé ». Et cela, je ne saurais trop le répéter, non par vertu, par une volonté de frugalité et de simplicité qui aurait du mérite, mais parce que leur souverain maître l'exige avec sagesse, impérieusement. Ce maître, qui n'a dans l'idée qu'une seule chose, et qui n'assemble, qui n'épargne que pour cela, temps, force, amour, intérêt. Cette sorte d'homme n'aime à être troublé ni par les amitiés, ni par les inimitiés. Elle oublie et elle méprise aisément. Il lui semble de mauvais goût de jouer le martyr, de souffrir pour la vérité. Elle laisse cela aux ambitieux et aux comédiens de l'esprit, et à tous ceux qui ont du temps du reste pour cela. Eux, les philosophes, ont à agir pour la vérité. Ils se montrent économes des grands mots. On dit que même le mot de vérité leur déplaît, il leur paraît ampoulé. Pour ceux qui en est enfin de la chasteté des philosophes, il est évident que la fécondité de ce genre d'esprit se manifeste autrement que par la progéniture. Autrement peut-être aussi la continuation de leur nom après leur mort, leur petite immortalité. Dans l'Inde ancienne, entre philosophes, on s'exprimait avec moins de modestie encore. À quoi bon des descendants pour celui dont l'âme est le monde? Il n'y a là rien qui ressemble à de la chasteté par scrupule ascétique ou haine des sens. Pas plus qu'il n'y a chasteté quand un athlète ou un jockey s'abstient des femmes. C'est ainsi que le vœu, du moins pour l'époque de la grande incubation, leur instinct dominant. Tout artiste sait combien est nuisible, au jour de grande tension de l'esprit et de préoccupation intellectuelle, le commerce avec la femme. Pour les puissants et les plus instinctifs parmi eux, l'expérience, la dure expérience, n'est pas nécessaire. C'est l'instinct maternel qui dispose ici, au profit de l'œuvre en formation, de toutes les autres provisions, de tous les afflux de force, de vigueur de la vie animale. La plus grande force absorbe alors la plus petite. On peut d'ailleurs s'expliquer, d'après cette interprétation, le cas de Schopenhauer dont j'ai déjà parlé. L'aspect de la beauté agissait évidemment chez lui comme une irritation sur la force principale de sa nature, la force de réflexion et la pénétration du regard. Cette force, faisant explosion, se rendait d'un seul coup maîtresse de la conscience. Cela n'exclut absolument pas la possibilité de voir cette douceur particulière et cette plénitude qui sont le propre de la condition esthétique, de prendre son origine dans l'ingrédient sensualité, source aussi de cet idéalisme propre aux jeunes filles nubiles. Ainsi, la sensualité ne serait pas supprimée dès que se manifeste la condition esthétique, comme c'était l'opinion de Schopenhauer, mais seulement transfigurée, de manière à ne plus apparaître dans la conscience comme excitation sexuelle. Je reviendrai une autre fois sur ce point en parlant de problèmes plus délicats encore qui rentrent dans ce domaine si inexploré et si obscur, le domaine de la physiologie de l'esthétique. 9. Un certain ascétisme, nous l'avons vu, un renoncement de plein gré, dur et serein, fait partie des conditions favorables d'une spiritualité supérieure. C'est aussi une des conséquences les plus naturelles de cette spiritualité. On ne s'étonnera donc pas dès l'abord que l'idéal ascétique ait toujours été traité avec quelques préventions favorables par les philosophes. Un sérieux examen historique, on s'aperçoit que le lien entre l'idéal ascétique et la philosophie est encore plus étroit et plus fort. On pourrait même dire que c'est tenu en lisière par cet idéal que la philosophie a appris à faire ses premiers pas, ses tout petits pas sur la terre. Hélas, avec quelle maladresse, avec quelle mine maussade, se mouvait ce petit marmot, faible et timide, aux jambes torses, ce pauvre marmot, hélas, toujours prêt à s'affaler par terre. Au début, il en a été de la philosophie comme de toutes les bonnes choses. Longtemps, elles n'ont pas le courage d'elles-mêmes. Elles regardent toujours autour d'elles pour voir si personne ne leur vient en aide. Bien plus, elles ont peur de tous ceux qui les regardent. Qu'on passe en revue, les uns après les autres, les instincts et les vertus du philosophe. Son instinct de doute, son instinct de négation, son instinct expectatif, son instinct analytique, son instinct aventureux de recherche et d'expérience, son besoin de comparaison et de compensation, son désir de neutralité et d'objectivité, son désir de tout sine ira et studio. A-t-on déjà compris que, pendant très longtemps, tout cela allait à l'encontre de toutes les exigences de la morale et de la conscience? Pour ne point parler de la raison, que Luther encore aimait à appeler « dame raison », la rusée catin. Qu'un philosophe qui serait parvenu à la conscience de soi aurait dû aussitôt se sentir le « nitimur inuititum » incarné, et qu'en conséquence, il se gardait bien de se sentir d'avoir conscience de soi. Il n'en est pas autrement, je le répète, de toutes les choses bonnes dont nous sommes fiers aujourd'hui, même en appréciant toute notre façon d'être moderne, avec les mesures des anciens Grecs, si elle n'est pas faiblesse mais puissance, elle apparaît comme quelque chose d'hybride et d'impie. Car ce sont précisément les choses opposées à celles que nous honorons aujourd'hui qui ont eu pendant longtemps la conscience de leur côté et Dieu pour gardien. Hybride est aujourd'hui toute notre position en face de la nature. La violence que nous faisons à la nature à l'aide de nos machines et de l'esprit inventif et sans scrupules de nos ingénieurs et de nos techniciens. Hybride notre position vis-à-vis de Dieu. Je veux dire d'une espèce d'araignée d'impératif et de finalité qui se cache derrière la grande toile, le grand filet de la causalité. Nous pourrions dire, comme Charles le Téméraire en lutte avec Louis XI, « Je combats l'universelle araignée. » Hybride notre position envers nous-mêmes, car nous expérimentons sur nous comme nous n'oserions le faire sur aucun animal, et avec satisfaction et curiosité, nous découpons notre âme vive. que nous importe encore le salut de l'âme. Et puis, nous nous guérissons nous-mêmes. L'état de maladie est instructif, nous en sommes persuadés. Plus instructif encore que l'état de santé. Les inoculeurs de maladie nous semblent aujourd'hui plus utiles que n'importe quel guérisseur ou sauveur. Nous ne faisons violence à nous-mêmes, c'est certain, nous autres casse-noisettes de l'âme qui posons des problèmes, problèmes nous-mêmes, comme si la vie ne consistait pas en autre chose qu'à casser des noisettes. Aussi, devons-nous nécessairement devenir tous les jours plus dignes d'être interrogés, plus dignes d'interroger, et peut-être, du même coup, plus dignes de vivre. Toutes les choses bonnes furent jadis des choses mauvaises. Tout péché originel est devenu vertu originelle. Le mariage, par exemple, sembla longtemps une atteinte aux droits de la communauté. On payait une amende pour avoir eu l'imprudence de vouloir s'approprier une femme. À cela se rattache, par exemple, le jus primae noctis, aujourd'hui encore au Cambodge, privilège du prêtre, ce gardien des bonnes vieilles mœurs. Les sentiments doux, bienveillants, conciliants, compatissants, qui plus tard atteignirent une valeur si haute qu'ils sont presque devenus les valeurs par excellence, longtemps n'attirèrent que le mépris. On rougissait de la douceur comme on rougit aujourd'hui de la dureté. Comparer par-delà le bien et le mal, aphorisme 260. La soumission au droit. Ah, quelle révolte de conscience chez toutes les races nobles du monde quand il leur fallut renoncer à la vendetta pour se soumettre au pouvoir du droit. Le droit fut longtemps un vetitum, un forfait, une innovation. Il s'institua avec puissance comme une puissance que l'on accepte que remplie de honte vis-à-vis de soi-même. Chaque petit pas sur la terre a été payé autrefois de supplices intellectuels et corporels. Cette idée que non seulement la marche en avant, non, le simple pas, le mouvement, le changement, ont eu besoin de leurs innombrables martyrs. Cette idée a, surtout aujourd'hui, quelque chose de très étrange pour nous. Je l'ai mise en lumière dans Aurore, aphorisme 18. Rien n'est plus chèrement acheté, est-il dit dans ce passage, que le peu de raison humaine et de sentiment de liberté dont nous nous enorgueillissons aujourd'hui. Mais, à cause de cet orgueil même, il nous est presque impossible de considérer les périodes immenses de la moralité des mœurs qui ont précédé l'histoire universelle comme une seule histoire capitale, importante et décisive, celle qui a fixé le caractère de l'humanité. Alors que partout, la douleur passait pour vertu, la cruauté pour vertu, la dissimulation pour vertu, la soif de vengeance pour vertu, le reniement de la raison pour vertu. Quand, d'autre part, le bien-être était regardé comme un danger, le désir de savoir comme un danger, la paix comme un danger, la compassion comme un danger, l'apitoiement comme un opprobre, le travail comme une honte, la démence comme une chose divine, le changement comme l'immoralité et la corruption par excellence. 10. Dans le même ouvrage, aphorisme 12, est exposé en quelle mésestime, sous quel poids de mésestime, la race ancienne des hommes contemplatifs a dû vivre, méprisée dans la même mesure où elle n'était point redoutée. La contemplation a certainement fait sa première apparition sur la terre sous une forme déguisée, avec un aspect équivoque, un cœur mauvais et souvent avec la peur marquée sur tous les traits. ce qu'il y avait d'inactif, de rêveur, de pusillanime, dans les instincts des hommes contemplatifs, les entoura longtemps d'une atmosphère de méfiance. À cela, il n'y avait d'autre remède que d'inspirer une crainte profonde. Les vieux brahmanes, par exemple, s'y entendaient. Les très anciens philosophes savaient donner à leur existence, à leur aspect extérieur, un sens, un appui, un arrière-plan qui les faisait craindre. À examiner la chose du plus près, il y avait là un besoin encore fondamental, celui de s'assurer à leurs propres yeux, vis-à-vis d'eux-mêmes, la crainte et le respect. Car ils voyaient en eux-mêmes tous les jugements d'appréciation tournés contre eux. Ils avaient à vaincre contre ce qui était le philosophe en eux, toute espèce de soupçon et d'opposition. En hommes d'époque terrible, ils eurent recours à des moyens terribles. La cruauté contre eux-mêmes, la mortification la plus ingénieuse, ce furent là les principaux moyens employés par ces ermites assoiffés de pouvoir, par ces novateurs spirituels, lorsqu'il leur fallut commencer par faire violence dans leur fort intérieur au Dieu et à la tradition, pour pouvoir croire eux-mêmes à leur innovation. Je rappellerai ici la célèbre histoire du roi Visvamitra, qui puisa dans les tortures qu'il s'était imposées pendant 1000 ans un tel sentiment de puissance, une telle confiance en lui-même, qu'il entreprit de bâtir un nouveau ciel. C'est là l'inquiétant symbole de toute ancienne et nouvelle destinée d'un philosophe sur cette terre. Quiconque a jamais bâti un nouveau ciel, en quelque époque que ce soit, n'a trouvé la puissance nécessaire à cela que dans son propre enfer. Ramenons les faits à de courtes formules. L'esprit philosophique a toujours dû commencer par se travestir et se masquer en empruntant les types de l'homme contemplatif précédemment formé, soit les types du prêtre, du devin, de l'homme religieux en général, pour être seulement possible en quelque mesure que ce soit. L'idéal ascétique a longtemps servi aux philosophes d'apparence extérieure, de condition d'existence. Il était forcé de représenter cet idéal pour pouvoir être philosophe. Il était forcé d'y croire pour pouvoir le représenter. Cette attitude particulière au philosophe, qui le fait s'éloigner du monde, cette manière d'être qui renie le monde, se montre hostile à la vie, de sens incrédule, austère, et qui s'est maintenue jusqu'à nos jours de façon à passer pour l'attitude philosophique par excellence, cette attitude est avant tout une conséquence des conditions forcées, indispensables à la naissance et au développement de la philosophie. Car, pendant très longtemps, la philosophie n'aurait pas du tout été possible sur Terre sans un masque et un travestissement ascétique, sans un malentendu ascétique. Pour m'exprimer d'une façon plus concrète et qui saute aux yeux, le prêtre ascétique s'est montré jusqu'à nos jours sous la forme la plus répugnante et la plus ténébreuse, celle de la chenille, qui donna seule au philosophe le droit de mener son existence rampante. Les choses ont-elles vraiment changé? Ce dangereux insecte ailé aux 1000 couleurs, l'esprit qu'enveloppait le cocon, a-t-il pu enfin, grâce à un monde plus ensoleillé, plus chaud et plus clair, jeter sa défroque pour s'élancer dans la lumière? Existe-t-il aujourd'hui déjà assez de fierté, d'audace, de bravoure, de conscience de soi, de volonté de l'esprit, de désir de responsabilité, de libre arbitre sur la terre, pour que dorénavant le philosophe soit possible ?